Jip, le mariage de Chiffon, chapitre 9. En arrivant dans la cour du château de Barfleur, un grand château Louis XV en briques et granit, Corrèze aperçut à une fenêtre du rez-de-chaussée la vicomtesse de Barfleur assise devant une grande table et très occupée à couvrir des pots de confiture. Sa besogne l'absorbait tellement qu'elle n'entendit point passer les chevaux. Chiffon, qui d'abord avait eu l'idée de s'approcher de la fenêtre et de débiter sans entrer son petit discours, réfléchit que peut-être ça ne serait pas suffisamment poli, et descendit de cheval aux écuries lorsqu'on lui eut répondu que madame la vicomtesse était là. On la fit entrer dans le billard où elle attendit pendant un temps qui lui sembla fort long. Et, tout en faisant les 100 pas dans la grande pièce nue, sans un tableau, ni un bibelot, ni une fleur, elle se disait rageusement. « Ah ça, est-ce qu'elle va achever de couvrir tous ces pots de confiture avant de me recevoir, la mère Barfleur ?» Enfin, le domestique qui l'avait introduite reparut. « Si mademoiselle Davaine veut bien venir ?» Je cherchais madame la vicomtesse dans le parc et elle était au salon. Corrèze pensa. Non, elle était à l'office. Mais probablement elle ne trouve pas chic qu'on le sache. Et elle trottina derrière le domestique à travers une longue enfilade de pièces d'un aspect désolé. Oh, fit-elle en frissonnant presque, c'est pas rigolo ici. Le père de Ragon et la mère Barfleur se trompent s'ils croient que j'épouserai 2 liards de beurre. Car je crois qu'ils le croient. Ah non, non, non. Le duc d'Aubière, à son arrivée dans le pays, avait demandé à l'oncle Marc en lui montrant le petit Barfleur debout dans l'embrasure d'une porte pendant un bal. « Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme gros comme 2 liards de beurre ?» Et chez les Bray et dans quelques autres maisons, le surnom lui était resté. Le domestique fit entrer Corrèze dans un petit salon un peu plus meublé et confortable que le reste du château. Assise près de la fenêtre, sa longue taille mince serrée dans une robe de foulard grenat à pastilles jaunes, la vicomtesse semblait lire attentivement le Gaulois. Tout de suite, la petite pensa. « C'est pas étonnant que j'ai attendu comme ça. La robe des confitures était grise. Elle est allée se glisser dans ses plus beaux habits pour me recevoir. Matin, on se met en frais pour le chiffon depuis que l'oncle Marc a hérité. « Ma chère enfant, fit la vicomtesse en se levant à la vue de Corrèze. « Quel bon vent vous amène ?» Et, sans lui laisser le temps de répondre, « Est-elle mignonne dans son amazone ?»« Mignonne ?» murmura Chiffon qui promena un œil étonné sur ses grands bras, ses longues mains et toute sa personne encore dégingandée. « C'est pas ce qu'on me dit à la maison, toujours. » Madame de Barfleur ne se démonta pas. « Oui, mignonne, mignonne et charmante. » Elle tira la longue bande de vieille tapisserie sur canevas de soie qui servait de cordon de sonnette. « C'est mon pauvre qui serait désolé de manquer une si jolie visite. Il est allé voir ses chevaux dans les grands herbages du bord de l'eau. Je vais le faire avertir. »« C'est inutile, madame, » dit vivement Chiffon. « Je suis obligé de partir. J'ai un cours à 4 heures. » Le domestique entrait. « Avertissez, monsieur le vicomte. »« Je viens seulement, » expliqua Corrèze, « pour vous dire que ma mère, quand elle vous a répondu que je viendrais avec elle samedi, a oublié que je dîne ce jour-là chez ma tante de Launay. »« Comment ?» s'écria madame de Barfleur. « Mais c'est impossible. Nous ne pouvons pas nous passer de vous. Vous arrangerez ça avec votre tante, ou bien moi, je l'arrangerai. » Chiffon ne répondit pas. Elle écoutait en souriant tinter la grosse cloche qu'on agitait éperdument pour appeler le jeune châtelain, et elle pensait. « Il lui faut 1 quart d'heure au moins pour remonter de la rivière, et dans 5 minutes, je me serai défilé. » « Je vous en prie, ma petite Corrèze, » insista la vicomtesse. « Dites-moi que vous trouverez un moyen de venir. » Vous serez là, mais la joie de ce dîner. Moi ? Interrompit l'enfant ébahi. Moi ? Mais quand je ne suis pas à mon aise, je ne dis pas 3 mots. Madame de Barfleur demanda. Pourquoi ne seriez-vous pas à votre aise, ma chère petite ? Pardon, s'écria précipitamment Chiffon, qui, très rouge, j'ai gaffé. Je veux dire que, n'importe comment, partout où je ne suis pas seule, je ne suis pas à mon aise. Parce que je me défie de moi, et vous voyez que j'ai raison. Non, vous êtes une charmante jeune fille, très simple, très franche. Oh, quant à ça. Et en se levant, Corrèze reprit. Je vais m'en aller, il faut que je rentre. Vous attendrez bien encore un instant, et d'abord vous allez goûter. Je vous remercie, madame, je suis déjà en retard. La comtesse se leva aussi et, comme Chiffon étonné de cette politesse exagérée, la priait de ne pas se déranger, elle répondit: Si, je veux vous voir à cheval. Mon fils m'a dit que vous y êtes adorable. Vlan, se dit la petite. Décidément, ça y est, ils sont tous d'accord. Au moment où le vieux Jean amenait au perron les chevaux, le vicomte de Barfleur entrait en courant dans la cour. Il prit la main que lui tendait Chiffon et, s'inclinant respectueusement, y appuya ses lèvres. Peu habituée à cette manière de faire, elle manqua éclater de rire. Puis, comparant les façons d'être de la mère et du fils à ce qu'elles étaient 15 jours plus tôt, un grand écœurement la prit et elle faillit penser tout haut: c'est des vilains types. Lorsque Corinne s'approcha de Joséphine, la grande jument de pur sang qu'elle montait toujours, le vicomte se précipita, noua ensemble ses deux mains et les tendit à Chiffon pour qu'elle y posât son pied. Elle toisa le frêle jeune homme qui courbait son misérable petit dos et son cou mince, surmonté d'une tête énorme, et considérant les bras grêles qui laissaient vides et plissotés les manches grises à grands carreaux de son costume trop anglais, elle se dit: Sûr, il va me lâcher en route. Et gentiment, de l'air le plus gracieux qu'elle put prendre pour faire passer son refus, elle répondit, indiquant le vieux Jean qui tenait les deux chevaux: Non, si vous vouliez plutôt faire tenir un instant l'autre cheval. Je suis très maladroite, je ne sais monter qu'avec Jean. Avec vous, je tomberais. Et comme il insistait: Je vous en prie, vous n'imaginez pas ce que je suis lourde. Un plomb. Elle posa le bout de sa botte dans la main du vieux Jean et s'envola, paraissant monter à 1 mètre au-dessus de la selle. Puis, saluant la mère et le fils, elle s'éloigna, son corps souple, ondulant aux grands pas de Joséphine. Dès qu'elle fut sortie du parc, Chiffon tourna dans la forêt. Elle avait hâte de galoper dans les belles allées vertes et de secouer la colère qui lui montait à la tête et au cœur. On ne la laisserait donc pas tranquille un instant. Comment? Il n'y avait pas 15 jours qu'on la tourmentait pour épouser Monsieur d'Aubière. À présent, on allait vouloir lui faire épouser le petit Barfleur. Et non seulement cette idée la tourmentait à cause de la nouvelle lutte à soutenir, mais encore, elle la blessait dans son amour-propre. De la demande de Monsieur d'Aubière, qu'elle ne trouvait pourtant pas beau, elle avait été reconnaissante et flattée. De celle de Monsieur de Barfleur, elle serait très humiliée. D'abord, elle savait bien que, quand elle était sans fortune, de liards de beurre ne lui avait jamais accordé d'autre attention que celle qu'un jeune homme bien élevé doit à une jeune fille qu'il rencontre dans le salon de ses parents. Ensuite, elle trouvait hideux ce garçon malvenu, avec ses énormes moustaches et ses jambes fluettes, démesurément arquées par l'abus du cheval. Pour elle, le duc d'Aubière était le grand d'Aubière, tandis que le vicomte de Barfleur était le petit Barfleur. Et tout était là. Saine et solide, Chiffon avait l'instinctive horreur des chétifs et des malsains. Et, en suivant la grande piste gazonnée qui la conduisait à la route de Pont-sur-Sarthe, elle pensait: « Il me dégoûte tout à fait, celui-là, et s'il lui prenait jamais l'idée de m'embrasser comme a fait Monsieur d'Aubière, je le giflerais des deux mains. Je ne pourrais pas m'en empêcher. C'est égal, ça va être joliment ennuyeux, cette histoire-là. Si je refuse encore, ma mère va me tomber dessus. Pour bien faire, faudrait que le refus vînt des Barfleur. Oh, cet animal de père de Ragon, c'est pourtant lui qui a manigancé tout ça. J'avais raison d'avoir peur des jésuites. » Elle s'arrêta devant la route blanche du soleil. « Ça va être atroce de descendre comme ça jusqu'à Pont-sur-Sarthe. Je vais essayer de prendre le sentier derrière les hauts fourneaux. Il n'y a justement pas trop de boucan à cette heure-ci. J'espère que Joséphine consentira à passer. » Elle fit entrer la jument, qui déjà piquait les oreilles écoutant le bruit sourd qui arrivait d'en bas, dans un petit sentier qui descendait presque à pic entre la forêt et les forges. À un tournant du sentier, elle aperçut à 100 mètres dessous d'elle un cavalier arrêté, parlant à des ouvriers assis à terre en bordure du bois. « Ah » dit-elle en se tournant vers le vieux Jean, « ça y est, j'ai raté le cours. Voilà les ouvriers qui goûtent. Il est 4 heures. » Et, clignant des yeux, « Tiens, on dirait que c'est le comte d'Axène. « Oui, mademoiselle Corrèze, c'est pour sur lui. » Le sentier descendait en lacet et Chiffon perdu de vue le groupe. Mais bientôt, en se rapprochant, elle entendit nettement les voix qui montaient jusqu'à elle. « Oui, disait le prince dont elle reconnaissait l'accent musical. Oui, elle est tout à fait bien, cette profession de foi. Et si j'étais électeur dans ce pays, je n'hésiterais pas à donner ma voix à celui qui l'a écrite. Chiffon venait de tourner le coude du chemin. Ah! cria-t-elle, c'est vous, monseigneur! Elle s'arrêta, devinant vaguement qu'il préférait ne pas être nommé ainsi, et il la remercia d'un signe en répondant. Mon Dieu, oui, mademoiselle, c'est moi. Né, monsieur, dit en riant un des ouvriers. V'là une petite demoiselle, qu'est votre avis, allez? Qu'est-ce que c'est? Demanda Corise. Oh, c'est ce monsieur qui dit comme vous qu'à notre place il voterait pour monsieur de Bray. Parbleu, fit Chiffon avec conviction, à moins que vous ne vouliez faire renommer monsieur de Bernay. Ah non, celui-là n'en faut plus. Eh bien alors, puisque vous savez que Charlier ne peut pas passer. Ouais, c'est vrai, mais moi, ça me gêne qu'il soit vicomte, monsieur de Bray. Lui aussi, ça le gêne, dit Chiffon, mais c'est pas sa faute. Pourquoi signe-t-il son affiche vicomte de Bray? Madame, puisque c'est son nom. Vous aimeriez mieux qu'il triche, vous? Qu'il se présente pour autre chose que ce qu'il est? Et regardant tout à coup à terre les nombreuses bouteilles, les saucissons et les fromages couchés sur l'herbe, Chiffon demanda. Sapristi, ben vous en faites un goûter. Un ouvrier, noir et velu, se leva et montrant le comte d'Axène. C'est ce monsieur qui régale, sans ça. Et il ajouta. Rapport à qui a tenu son cheval pendant qu'il visitait les forges. Le vieux Jean, rouge et suant, regardait les bouteilles d'un œil attendri. Corise s'en aperçut et le montrant à l'un des hommes. Si vous vouliez être bien gentil, vous lui donneriez un verre de quelque chose, parce qu'il a bien chaud. L'ouvrier s'élança sur une bouteille et s'excusant. Si on ne l'a point fait, c'est qu'on n'osait pas, vu que le larbin, ordinairement, quand il y a les maîtres. C'est pas mon larbin, répondit Chiffon en riant, c'est ma nourrice. Viens boire, nourrice. Le vieux Jean s'avança. C'est pas de refus, dit-il d'un air ravi, car c'est qui fait soif. Que vous aussi, mademoiselle Corise, vous devez avoir soif. Si vous vouliez boire un verre, faudrait pas vous gêner toujours, proposa l'ouvrier qui tenait la bouteille. Je veux bien, dit Chiffon tendant la main. Tendez une minute, parce que pour vous, faut que je rince le verre. Il courut à une fontaine placée à l'entrée des bâtiments et revint en demandant. C'est-il de la bière ou du vin que vous voulez? Du vin. Elle avança son verre en disant d'une voix claire. À votre santé! Les ouvriers se levèrent. C'est plutôt à la santé de monsieur qui régale qu'on devrait boire, remarqua un des hommes en désignant le comte d'Axène. Et moi, répondit le prince, je propose de boire à la santé du candidat. C'est ça, cria étourdiment Corise, à la santé de l'oncle Marc. Un des ouvriers demanda. Alors, comme ça, vous êtes la nièce à monsieur de Bray? Eh oui, fit Chiffon en regardant le prince qui riait de sa distraction. L'ouvrier reprit. Oh, nous vous connaissions bien, mais nous ne savons point votre nom. C'est surtout les gosses là-bas, à la cité, qui vous connaissent. Et, se tournant vers le comte d'Axène, il continua. Vu que mademoiselle a toujours des pièces pour eux dans ses poches, quand elle passe à cheval. Même qu'à Noël, elle leur a apporté une pleine caisse de joujoux, ça remplissait la voiture. Qu'ils en ont eu plus qu'ils n'en pouvaient casser. Son petit œil dur s'adoucit un peu et il conclut. Si tous les riches étaient comme mademoiselle et monsieur, ça irait mieux que ça ne va. Mais il y en a qui veulent pas se douter qu'il y a de la misère. Et des comme ça, j'en connais. Moi aussi, fit involontairement Chiffon qui pensait à sa mère. Puis, aussitôt, elle demanda, s'adressant au comte d'Axène. Est-ce que vous redescendez sur Pont-sur-Sarthe, monsieur? Oui. Voulez-vous me permettre de faire un instant route avec vous? Mais oui. Et tout de suite, elle proposa. Seulement, il vaut mieux reprendre le sentier dans la forêt. Celui-ci est trop plein de pierres roulantes. Quand ils eurent disparu sous bois, Corisse entendit la voix de l'ouvrier qui expliquait. J'ai idée que ces deux petits-là, c'est des promis. Elle se tourna en riant vers le prince. C'est de nous qu'il parle, monseigneur. Il s'inclina courtoisement. Je regrette qu'il se trompe. Vous regrettez? C'est beau, la politesse. Voyez-vous la tête que j'aurai en reine? Non, mais vous la voyez? Ah, seigneur, qu'est-ce que vous feriez de moi? Et après un instant, il ajouta. Et qu'est-ce que je ferais de vous? Il se mit à rire. Quel âge avez-vous, mademoiselle Corise? J'ai eu 16 ans au mois de mai. Et vous, monseigneur? Moi, j'aurai 24 ans dans 8 jours. Et pris d'un scrupule, il demanda. Dites-moi, la marquise permet que vous vous promeniez avec un jeune homme? Ah, mais non. Eh bien, mais alors? Vous? Oh, mais vous êtes un souverain. C'est pas un jeune homme, un souverain, ça ne compte pas. Elle rougit et reprit en bafouillant. C'est-à-dire, je veux dire que ça compte trop pour compter. Et voulant changer la conversation, elle questionna. Dites donc, monseigneur, vous n'avez pas peur de vous faire cueillir et reconduire à la frontière en faisant comme ça à vous, un étranger de la politique d'opposition? Oh, elle est bien anodine, ma politique d'opposition, qui consiste à dire à des ouvriers que si j'étais eux, je voterais pour votre oncle. C'est égal, à votre place, je me méfierais. Tenez, je voudrais que monsieur Daubière fût revenu. Il vous dirait ce que vous devez faire ou ne pas faire. Parce que vous m'avez l'air un peu jeune dans tout ça. Vous vous intéressez donc à moi? Demanda le prince qui riait de tout son cœur. Je m'y intéresse, sans m'y intéresser. C'est déjà quelque chose. Eh bien, voyez comme on peut se tromper. J'aurais juré, moi, qui ai pourtant ce que vous appelez en français du flair, que non seulement vous ne vous intéressiez pas à moi, mais encore que je vous étais antipathique. Et c'était vrai, s'écria franchement Corise. Oui, jusqu'à tout à l'heure. Et puis, tout à l'heure, vous m'avez tout d'un coup fait l'effet d'un brave garçon. Alors, nous sommes amis? Oui. Et se reprenant, oui, monseigneur, je vous demande pardon, je vous parle très mal. Mais non. Mais si, je ne dis pas assez souvent monseigneur et je ne dis jamais votre Altesse. Ne vous préoccupez pas de ça. Et puisqu'à présent nous sommes amis, voulez-vous me dire pourquoi nous ne l'étions pas? C'est-à-dire vous, car moi, je n'avais pas la même répulsion, je vous assure. Oui, je vais vous le dire, c'est que, d'instinct, je n'aime pas beaucoup les étrangers et que je déteste les protestants. Alors, comme vous êtes les deux, vous comprenez. Je comprends. Et qu'est-ce que vous leur reprochez aux étrangers? Oh, je ne leur reproche absolument que de n'être pas français. Et aux protestants? Un tas de choses. Je les trouve intrigants, faux, hypocrites, et rats, donc. Naturellement, je reconnais des exceptions. Naturellement. Moi d'abord? Elle se mit à rire. Pas seulement vous, d'autres encore. Mais je parle de la masse des protestants et des protestants de France, bien entendu, puisque ce sont les seuls que je connaisse. Moi, en voyant l'espèce de répulsion que je vous inspirais, je m'étais imaginé que vous me preniez pour un espion. Oh, monseigneur! Oh non, pas ça! D'abord, je vous dirais, j'y crois pas tant que ça, moi, aux espions, parce qu'on en voit souvent où il n'y en a pas. C'est un peu comme les chiens enragés que les sergents de ville tuent pour avoir une récompense, et qui ne sont pas plus enragés que moi, les pauvres bêtes. En revenant à ce qui l'intéressait, Chiffon déclara. C'est égal, c'est rudement gentil à vous de travailler à l'élection de l'oncle Marc, toujours. Ne m'ayez de cela aucune reconnaissance, car je vous avoue que la conversation que vous avez entendue a été l'effet d'un pur hasard. Ces hommes avaient gardé mon cheval pendant que je visitais les forges. Je ne savais pas au juste lequel l'avait tenu, et puis je craignais, en donnant une seule grosse pièce, d'amener des batteries. Alors je suis allée à l'auberge, qui est sur la grande route. Et je leur ai fait apporter un goûter. Ils m'ont offert à boire, et en buvant avec eux, j'ai causé des candidats dont les affiches étaient placardées sur les bâtiments des forges. Vous voyez que ma propagande s'est bornée à peu de choses. Ça sert tout de même. Vous verrez comme il est gentil, oncle Marc. Je suis sûre que maintenant qu'il est revenu, vous allez trouver la maison bien moins embêtante. Mais, voulut protester le prince, jamais je n'ai. Chiffon l'interrompit. Allons donc. Ce n'est pas à moi que vous ferez croire que vous ne vous y embêtiez pas. Et comme ça, monseigneur, ça ne vous choque pas, la proclamation socialiste de l'oncle Marc, puisqu'elle est, il paraît, socialiste. Mais moi aussi, je le suis. Oh, fit la petite saisie. Ben, ne racontez pas trop ça, Pont-sur-Sarthe, ça ne ferait pas bon effet. Ah, vous êtes socialiste, monseigneur. Et ça ne vous gênera pas un peu pour régner, dites. J'espère que non. Mais si ça me gêne, je passerai la main. C'est bien ainsi que l'on dit, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Ça me sera facile, j'ai 6 frères. Et vous, mademoiselle Corise, vous veniez de faire une tournée électorale quand j'ai eu le plaisir de vous rencontrer? Non, je venais de faire une commission chez les Barfleur. Ah, monsieur de Barfleur, c'est, n'est-ce pas, un petit monsieur très mince? Oh, pour mince, il l'est. Qui a le genre très anglais? Le genre anglais de Pont-sur-Sarthe, oui. Et il a un beau château, ce monsieur? Assez beau, mais c'est à sa mère, le château. Est-ce que sa mère est agréable? Ah, mais non, c'est une grande femme à la pose, et maigre et majestueuse, avec un faux air triste, l'air qu'il vient de lui arriver des malheurs. Moi, j'ai toujours envie, quand je lui parle, de l'appeler infortunée princesse. Et lui, le petit, on l'appelle dans le pays deux liards de beurre. Comme le comte d'Axène riait, Chiffon expliqua. Je ne suis pas méchante, ni moqueuse, vous savez. Non, mais je ne peux pas les sentir, les barfleurs. Il n'y a que la mère et le fils. Adieu, c'est bien assez comme ça. Je les rencontrerai probablement au bal que donnera madame votre mère le jour des courses. Sûr, vous les rencontrerez. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je suis curieux de voir, après la société de Paris que je connais un peu, la société de province. Ah ben, ça vous fera une belle jambe. Si vous saviez ce que c'est mesquin et potinier et rasant. Je sais bien que, comme vous êtes au-dessus de tout ça, mais je ne suis au-dessus de rien. En dehors, si vous voulez. Et tenez, monseigneur, je crois qu'il vaut peut-être mieux tout de même ne pas dire que nous nous sommes promenés tous les deux tout seuls. Ah, vous craignez les potins? Oh, pas du tout, mais j'ai peur que ma mère m'enlève si elle apprend ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ne pas le dire. Moi, je ne le dirai que si on me le demande et qu'on ne me le demandera pas. En effet, il est peu probable qu'on devine notre rencontre. Si par hasard on l'a deviné, nous dirions que oui. Nous dirions que oui. C'est entendu. Et maintenant, il faut nous quitter avant de sortir de la forêt. Je vous demande encore pardon pour toutes mes incorrections, monseigneur. Et elle ajouta en riant. Et je salue profondément votre Altesse. D'un large mouvement, le petit prince ôta son chapeau et répondit en riant aussi. Je vous salue profondément, mademoiselle Chiffon.